maintenant un bon bois de casse.
Maintenant un bon bois de casse. Maintenant un bon bois de casse.
Et bonjour à toutes et tous, c'est Christian Lemay qui nous accueille dans son micro. Bonjour Nicolas, bienvenue dans mon micro. C'est bien décoré. On est sur le Salon d'Essen 2011 et tu es présent avec un stand, tu es en coprésence avec BlackRock et tu présentes tes jeux, mais il y a un jeu qui buzz malgré tout depuis pas mal de temps, c'est le fameux Québec. Et ça tombe bien, tu viens de Québec. Enfin, du Québec. Oui. Tu ne viens pas de Québec parce que Québec, c'est une ville. Et on dit du Québec parce que tu es de la région. Hein?
Mais je suis né à Québec.
Ouf. Voilà, donc j'ai pas dit n'importe quoi. Donc Québec, on est dans un... Quand on le voit, on est dans un gros jeu à l'allemande, on va dire ça.
Un jeu à l'européenne, oui. Dans lequel on a tâché de mettre, disons, notre petite touche américaine, on va dire. Alors, on a intégré...
Les zombies qui arrivent?
Ça, c'est l'extension. Mais alors, on a un maximum de thématiques. On a Pierre Poisson, un des deux auteurs, qui est historien. Donc, vraiment, plusieurs éléments historiques qu'on peut oublier si on le veut, mais qui sont là, qui sont présents. Et aussi, une interaction très forte. Pour moi, c'est important dans les jeux que je publie. Les gens se parlent beaucoup. Et dans Québec, il y a ça sur le plateau. C'est pas chacun sa petite affaire.
Alors, le plateau, on l'a vu, c'est une vue aérienne de Québec. On est en quoi, en 1860?
Donc, le jeu couvre les 400 ans d'histoire et c'était d'ailleurs un défi dans la conception visuelle du jeu. On part en 1608 et on se rend pratiquement à nos jours. Et il y a donc des bâtiments qui vont se révéler progressivement au cours de la partie. Les premiers bâtiments les plus anciens de la ville, certains n'existent plus d'ailleurs, et jusqu'à des gratte-ciels modernes.
Et donc, ça se présente sous forme de tuiles rondes qui on va se placer à différents endroits, c'est ça?
Oui, donc l'emplacement des bâtiments n'est pas toujours exact comparé à la réalité, mais au niveau historique, ils vont apparaître selon vraiment la chronologie.
D'accord. Alors, bon, ça c'est le matériel. Maintenant, au niveau mécanique, on est dans un jeu historique, ça peut être rébarbatif, mais tu parles d'interaction, donc où est-elle?
Donc, il y a deux grandes idées, deux idées fortes, dirait Cyril Demag, mon co-éditeur avec Hystérie. Il y a tout d'abord, on a réinventé le placement d'ouvriers. Donc, les actions disponibles sont très différentes parce que, en fait, pour qu'une action soit disponible, il faut qu'un autre joueur l'offre avec son architecte. Donc, quand je place mon architecte sur un bâtiment, je n'ai pas droit à l'action qui est associée à ce bâtiment. Seulement les autres peuvent la faire. Donc, il faut que... Mais évidemment, plus ils vont venir profiter de cette action, plus ça va me rapporter des points. Donc, je cherche un endroit où l'action ne m'intéresse pas, mais va intéresser les autres joueurs. Il faut vraiment que je regarde là où ils sont dans la partie, c'est quoi leur stratégie pour bien me situer.
Donc ça veut dire qu'on ne construit pas dans son coin, puisqu'en fait, tout le monde participe à la construction d'une ville, et donc on doit tenir compte, évidemment, des autres joueurs.
Quand on envoie ses ouvriers, 9 fois sur 10, on les envoie chez les autres joueurs, donc d'où une interaction première. Et c'est aussi un jeu de majorité. Alors, qui dit jeu de majorité dit une action assez forte aussi dans la compétition pour gagner les dites majorités. Avec la fameuse cascade, là, parce que les 5 zones d'influence, il y a 4 décomptes, après chaque siècle. Et dans chacun des décomptes, on va scorer les 5 zones d'influence et on les score en séquence. C'est-à-dire que dans la première, celui qui est majoritaire va avoir un bonus sur la deuxième. Mais celui qui est majoritaire sur la deuxième va avoir un bonus sur la troisième et ainsi de suite. Donc, on peut faire des effets assez ravageurs comme ça.
Donc, toi, tu te positionnes en tant qu'éditeur par rapport à Québec. Pierre Poisson-Marquis est quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde ludique québécois, ou montréalais, là, on est plus à Montréal, dans la région de Montréal. C'est une rencontre qui existe depuis assez longtemps par rapport à ce jeu-là. C'est une idée qui traîne depuis longtemps chez Pierre Poisson?
Alors, l'idée du jeu, ça avait été lancé par... Je crois, c'est par Martin Bouchard, je crois, qui travaille chez Philo en 2006 ou en 2008, lors d'une soirée de jeu avec Pierre et Philippe, l'autre auteur du jeu. Et il avait lancé un peu, ce serait agréable d'avoir un jeu pour les 400 ans de Québec qui aurait dû en 2008. Et eux, ils ont pris la balle au bon, ils ont développé quelque chose. Le jeu a été un certain temps chez Philo, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et en 2010, j'ai récupéré les droits et je m'y suis mis. J'avais participé au test de développement, je trouvais que malgré tous les défauts, tous les problèmes que le jeu avait, la structure, le squelette du jeu était vraiment génial. Et dans le développement, nous, on n'a pas touché vraiment à la structure. On a vraiment juste changé les actions, juste changé les leaders auxquels les joueurs peuvent faire appel. Mais jamais on a touché à au cœur du jeu.
Alors on l'a dit, les bâtiments ont certains avantages, on peut tirer avantage. Quels sont par exemple certains avantages des bâtiments?
Donc, des avantages de bâtiments, les bâtiments rouges sont des bâtiments politiques qui nous permettent d'envoyer beaucoup d'influence dans une zone à la fois. On a des bâtiments violets, les bâtiments religieux nous permettent de faire des actions intrigantes. Donc, on va déplacer des ouvriers, on va en envoyer dans plusieurs endroits à la fois où on va marquer des petits points de victoire. Donc, des petits avantages, mais plus ratoureux. Je peux dire ça?
Ratoureux. Ratoureux. Okay. Et donc ça veut dire qu'on peut jouer sur différentes stratégies. On peut se la jouer en gros bloc, grosse action, ou bien jouer petit, mais en construisant quand même sur le moyen terme.
Oui. Ben, y a la dimension, on va dire, moyen-court terme, qui est la fin de chaque siècle. Donc, on va aller chercher des bonnes majorités pour faire les cascades. Mais il y a aussi la dimension stratégique, c'est-à-dire que nos bâtiments, il faut les construire dans un certain pattern. On cherche à les connecter. Et parce qu'à la fin de la partie, lors du décompte final, il y a beaucoup de points à faire là aussi. Donc, il faut manager son court et son long terme.
Donc, nous sommes le vendredi du Salon de l'Essonne et il est deuxième au fair play. Troisième. Déjà? C'était trois?
Deux ou trois.
Oui, quelque chose comme ça. donc, c'est quand même assez bien. Ça veut dire que le public est quand même... c'est un bon choix en tant qu'éditeur. On peut être content pour l'instant. En général, ça devrait aller. Le Scorpion Masqué, on s'est rencontrés en 2009 à Montréal. Et c'était encore un... Je ne vais pas dire que c'était les débuts, mais on avait des Stuttgart HQ qui sont devenus Bluff Party chez Cocktail Games. La Chasse aux Monstres venait de sortir, le jeu d'Antoine Bozard, un auteur qui démarrait. Donc voilà, quel est le bilan que tu fais jusqu'à présent? Donc on était en 2009, on est en 2011. Maintenant, tu es à Essen avec un stand, tu es présent. Donc de 2009 à 2011, voilà, je veux dire... ça a grandi. Maintenant, tu es reconnu comme éditeur. Donc.
Oui, ben, je crois que j'ai ajouté des cordes à mon arc. Vraiment, je suis sorti de ma zone de confort, mes petites boîtes carrées, et j'arrive à faire d'autres formats, trouver des bons fabricants, trouver des partenaires. Beaucoup de maturité aussi au niveau de développement éditorial, parce que développer un jeu comme Québec, ben, c'est... la grosse différence entre, disons, je te gâche que Bluff Party et Québec, c'est... Le développement n'a pas lieu au même moment. C'est-à-dire, un Bluff Party, on cherche l'idée, on cherche la mécanique, et une fois qu'elle est trouvée, ben, on l'a trouvée, puis il n'y a presque plus rien à faire. Mais ça peut être très, très long avant d'avoir cette idée. Tandis que le jeu Québec, ben, on a l'idée, puis là, on progresse, on tâtonne, et puis on a des bases, mais c'est très, très long. Une fois que l'idée est plus facile à avoir, je crois, mais c'est plus long à la mener jusqu'au bout. Alors, j'ai développé beaucoup cet aspect-là éditorial. J'ai des partenaires, bon, avec Hystari. Donc, le Scorpion Masqué grossit, même si je n'ai pas plus d'employés, mais plus d'expérience, plus de confiance aussi. Puis, une reconnaissance qui commence à être agréable.
Donc ça veut dire que bon, tu es présent, tu es à Cannes en général. À Essen, tu étais en tant que visiteur. Maintenant, tu es à un stand, je me trompe.
Ben, j'en partage deux, en fait. Donc, il y a évidemment Hystari pour présenter Québec. Et je suis avec mes amis de chez BlackRock, avec qui on coédite le jeu Cairn.
Oui, tout à fait. Le fameux Cairn qui était en fait un curling préhistorique.
Oui, c'est ça. En fait, moi, Cairn, ce qui m'a séduit, c'est que c'est un des rares jeux où le mariage adresse-stratégie est bien réussi. Parce que, bon, évidemment, il faut être adroit pour pichenoter les roches près du centre, comme au curling ou comme à la pétanque.
Juste l'idée du jeu, c'est qu'effectivement, on a donc c'est un plateau en vinyle, hein, j'ai entendu le mot tout à l'heure, donc je l'utilise. Donc c'est en vinyle, assez bien illustré par Bonnie Ludenour. Et l'idée, c'est effectivement de lancer par pichenette au centre. On est entre la pétanque et le curling, en fait.
Tout à fait. Et une fois qu'on a lancé une pierre ou qu'on l'a pichenettée, on peut utiliser un jeton spécial qui va nous permettre d'améliorer notre lancer. Donc, ça va permettre, par exemple, de déplacer, donc de se rapprocher du centre, ou peut-être de se mettre devant une pierre qui est bien placée, donc pour la protéger. Ou encore, il y a des totems protecteurs qui nous permettent, justement, si jamais on se fait expulser une pierre, de la reprendre. Il faut bien gérer son stock, bien utiliser, et les possibilités sont assez vastes. Donc, même quelqu'un qui n'est pas le meilleur avec ses doigts va pouvoir compenser. C'est vraiment un beau mariage, un beau jeu à découvrir.
Avec Cairn, bon, tu l'as dit, tu es sorti de ta zone de confort, mais Cairn a été un peu un jeu charnière entre ta zone de confort et Québec, mais c'était quand même une prise de risque au niveau matériel.
Oui, ça a été tout un casse-tête. D'ailleurs, on le distribue pas à grande échelle. Hein. Il est disponible sur le site de BlackRock, sur le mien. C'est une Ben, une micro-édition. À 1000 exemplaires, est-ce qu'on c'est encore une micro-édition? Je ne sais pas. Mais le défi, c'était qu'on voulait garder la qualité du matériel parce que le vinyle, la bâche, ben, si jamais on la froisse par accident, si jamais on la plie, le matériel n'a pas de mémoire, c'est-à-dire qu'il reprend sa forme initiale. Tandis qu'on nous a proposé des papiers synthétiques qui, eux, une fois qu'ils étaient pliés ou froissés, restaient pliés ou froissés, ce qui était inacceptable pour ce genre de jeu-là.
Bien. Québec, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Sur les 6 mois qui viennent, il y a des projets, on peut déjà en parler?
Ça concerne moins l'Europe, mais on vient de sortir Switch, la version québécoise de Contrario, avec Cocktail Games, qui démarre très, très bien. On a, au printemps 2012, on a la course des étoiles. Donc, qui est notre première traduction, qui est le premier jeu qu'on publie, qui n'est pas originaire du Scorpion Masqué. Un petit jeu de course dans l'univers, on va dire, pas de la guerre des étoiles, mais bon, pas trop loin.
Mais mieux.
Il y a encore plus longtemps et encore plus loin, dans une galaxie plus lointaine encore. Et oui, c'est ça, c'est pour les 7 ans et plus, dans le même format que la chasse aux monstres, même simplicité, très cute, très mignon au niveau des illustrations, et puis même entre adultes, c'est fort sympathique. Donc,
c'est quoi la mécanique?
Donc la mécanique, à son tour, on joue une carte pour faire soit déplacer un des extraterrestres, ou pour ajouter un de ses favoris ou les échanger. Alors les favoris, c'est que, en fait, dans la partie, il y a toujours 5 extraterrestres. Et,
même si on est 2 joueurs.
Même si on est 2 joueurs. Et chaque joueur a devant lui soit 2 ou 3 favoris. À la fin de la partie, selon la position respective des extraterrestres, ils vont nous rapporter un nombre de points. Donc, des fois, il y a un extraterrestre en mauvaise position, puis c'est un de nos favoris, donc on veut s'en débarrasser. Ou des fois, on va aller voler le favori d'un autre joueur qui est en bonne position. La mécanique qui est bien pensée, c'est qu'à la fin de la partie, l'extraterrestre en tête ne rapporte aucun point. Donc, on veut être le plus proche de la tête, mais pas trop proche.
Ça, c'est un jeu de qui?
C'est un jeu de Andreas Pelikan qui a fait Catch-Catch chez Queen Game, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et aussi Malédiction Witch Brew chez Aléa, qui était malin aussi.
Bien, et donc ça, c'est effectivement une traduction. Donc ça, c'est le premier jeu traduit. Typiquement, par rapport à une entreprise comme le Scorpion Masqué, c'est une manière moins risquée de sortir des jeux de son côté?
Pas moins risquée. Quand on sort un jeu... C'est sûr que si on sort la version française d'un jeu ultra connu, là, on diminue le risque. Monster of the Flute n'est pas un jeu super connu du côté francophone, donc il y a un risque. Mais c'est plus facile au niveau développement parce que le jeu a été travaillé par un autre éditeur, donc on est pas mal certain que j'ai changé une demi-règle, pratiquement rien.
Ça, c'est acceptable par rapport à l'éditeur? Enfin, acceptable, évidemment que c'est acceptable, mais je veux dire, c'est logique quand tu fais une traduction de modifier quand même un petit peu la mécanique?
Je sais pas pour les autres cas, c'est la première fois que je le fais, mais la différence n'est pas très grande, c'est qu'au lieu de piocher une carte au début de son tour, on la pioche à la fin de son tour. C'est pas très grave.
On dira rien. OK. Merci, Christian. Merci pour cette interview. Et on se retrouve pour peut-être une chasse, une course d'extraterrestres ou d'autres jeux.
Merci à vous.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez. À l'usure, vous y arriverez.